Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, il est midi 30, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Si on n'a pas de moyens supplémentaires, si la courbe continue comme ça, on sera obligé de faire des choix sur les patients qui nous arrivent parce qu'on ne pourra pas prendre en charge tout le monde.
La deuxième vague qui fait monter la pression sur des régions qui avaient été épargnées en mars dans la Loire. Des maires en appellent à l'armée pour installer un hôpital de campagne. 45 000 cas enregistrés en 24 heures, nouveau record. Cette deuxième vague sera-t-elle plus violente? Le couvre-feu suffit-il pour freiner le virus? Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, est mon invité à 12h45. Les deux tiers des Français désormais sous couvre-feu, plus de sorties après 21h, un couvre-feu, vous l'entendrez, qui a surpris les touristes qui pensaient y échapper à Deauville en Normandie. Couvre-feu qui se durcit à l'instant en Italie, fermeture désormais de tous les bars, restaurants, cinémas et théâtres dès 18h. Des tests antigéniques bientôt dans les aéroports français, ça devrait être le cas à Marseille, Paris, Nice, dit sur Europe 1 le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Toujours dans le journal de la mi-journée, le président turc Erdogan qui provoque une nouvelle fois Emmanuel Macron. Les sports avec le 15 de France qui s'est rassuré face au Pays de Galles hier soir et une victoire 38-21. Et puis la météo avec un dimanche sous un ciel gris, souvent humide. C'est ce que nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
45 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un nouveau record alors que les députés ont adopté en première lecture hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février. Alors cette deuxième vague touche cette fois toute la France. La pression monte du coup sur des régions qui avaient été épargnées en mars au point que certains maires dans la Loire près de Saint-Étienne en appellent à l'armée pour construire un hôpital de campagne comme on l'avait fait dans le Grand Est en mars, Diane Berger.
Oui, car certaines communes de cette vallée font partie des plus touchées de France en une semaine. Le nombre de cas graves soignés dans l'hôpital local est passé de 50 à 130. Un choc difficile à encaisser pour cette zone très rurale, explique Régis Cadegros, premier adjoint au maire de Saint-Chamond et président du conseil de surveillance du centre hospitalier du GIE.
Si l'évolution persiste de cette façon, ça va être difficile de prendre en charge tous nos patients. On n'a pas de problème de pénurie de matériel, mais c'est uniquement un problème humain. Nos soignants sont d'une part sont contaminés et puis d'autres sont malheureusement surbookés. Si on n'a pas de moyens supplémentaires, si la courbe continue comme ça, on sera obligé de faire des choix sur les patients qui nous arrivent parce qu'on ne pourra pas prendre en charge tout le monde. C'est un crève-cœur d'en arriver là.
Alors, avec les élus des 21 communes concernées, Régis Cadegros insiste, il faut que l'armée intervienne, comme en mars à Mulhouse, où 30 lits ont pu être installés dans un hôpital de campagne pendant 2 mois. Et de manière générale, il espère l'arrivée de soignants en renfort, dont des civils qui pourraient se porter volontaires.
Et cette pression qui monte dans les services de réanimation et sur les hôpitaux, on en parlera aussi avec mon invité Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, dans une quinzaine de minutes. Ce sont désormais les deux tiers des Français donc, qui vivent sous couvre-feu, plus de restaurants, plus de sorties après 21h. 38 nouveaux départements ont basculé dans ce régime depuis vendredi soir, notamment le Calvados, ce que n'avaient pas forcément prévu les touristes qui passaient le week-end à Deauville. Caroline Baudry.
On avait prévu de se faire un super plateau de fruits de mer et on va se faire une super pizza aux fruits de mer.
Sur les planches de Deauville, déserte, dans un restaurant à moitié vide, c'est un apéro vue mer pour la famille de Lionel et leurs amis. Mais pour dîner, il fallait être ici avant 19h, pas exactement ce que ce Parisien avait prévu pour son séjour à Deauville.
On s'était dit, on va faire un petit week-end tranquille à Deauville pour décompresser. Et en plus, il n'y a pas couvre-feu, donc on va pouvoir profiter correctement de tout ça. La situation sanitaire en a décidé autrement.
En face, les enfants jouent sur la plage, 1 heure top chrono, avant que les deux familles ne rejoignent leur hôtel respectif. Des retrouvailles expéditives pour Lilou, qui retrouve à peine Lionel et sa famille.
On prend un petit verre, on se dépêche, on fait vite. C'est un peu dommage. Avec des amis qui nous sont très chers, on disait, bon bah, on va faire des petites retrouvailles à Deauville. On va pas se plaindre, il pleut pas. On est en bonne compagnie, c'est ce qui compte, mais c'est dommage pour le reste, quoi.
Ici, la station balnéaire est méconnaissable, les touristes sont rares et masqués et l'emblématique casino a baissé son rideau. Deauville, Caroline Baudry, Europe 1.
Et partout en Europe, de nouvelles restrictions. L'Italie qui vient d'annoncer le renforcement de son couvre-feu. C'est désormais à 18h que tous les bars, restaurants ainsi que les cinémas, les théâtres et les piscines vont devoir fermer. En Belgique, c'est désormais à 20h que les magasins doivent fermer. Le couvre-feu général a lui été avancé à 22h. On attend aussi de nouvelles restrictions en Espagne avec un couvre-feu qui pourrait être annoncé pour 9 régions. Alors dans ce contexte, est-il pertinent de commencer à réserver ses billets de train pour Noël ? Oui, réponse matin sur Europe 1, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Les Français, ils attendent pour prendre le train. 60% des billets ont été pris dans les 7 derniers jours à l'occasion des grandes vacances. Donc les Français, ils attendent. Ils sont comme tout le monde dans l'incertitude, dans une forme d'anxiété, d'inquiétude probablement. Et donc, ils attendent. Il n'y a pas de risque à prendre un billet, pour répondre très clairement à votre question, puisque ces billets, par nature, et la SNCF et les autres opérateurs l'ont annoncé, ils sont remboursables sans frais jusqu'au dernier moment.
Il y a peut-être un risque. Jean-Baptiste Djebbari, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Timothée Deroux.
Bonjour Fabienne Lemoine.
Président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances et directeur général d'Abritel. Au moins, une question toute simple, hein. On entend ces couvre-feux qui se multiplient un petit peu partout. Est-ce qu'en tout cas l'épidémie a dissuadé les Français de partir pour les vacances de la Toussaint en France ?
Alors d'abord, il faut dire que ce coronavirus, c'est un cataclysme pour le tourisme et pour l'hébergement touristique en général. Mais c'est vrai qu'on a vu des réservations de dernière minute pour la Toussaint, surtout quand le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a dit aux Français qu'il était possible de réserver 10 jours avant les vacances. Donc on a vu pas mal de réservations en location de vacances, parce que la location de vacances, c'est un hébergement qui rassure les Français en fait. Ils vont pouvoir se retrouver en famille, entre eux, respecter les distanciations sociales, sans avoir réellement besoin de se déplacer dans les espaces publics. Donc c'est vrai que les plateformes ont connu, pour certaines destinations, un certain succès pour ces réservations de vacances de la Toussaint.
Quelles destinations justement ? Est-ce que c'est encore les zones rurales qui ont la cote, comme ça avait été le cas cet été ?
Les zones rurales ont la cote, effectivement, les zones de montagne, les zones de grand air, en fait. Toute la côte atlantique, en fait, voit un niveau de réservation qui est soit le même que celui de l'année dernière, soit un peu plus important que l'année dernière. Et on voit apparaître aussi des zones rurales ou de montagne comme les Vosges, comme le Jura, qui ont un certain succès parce que, effectivement, on sent que les Français ont envie de prendre l'air.
Une dernière question, est-ce que justement la mise en place progressive de ce couvre-feu qui touche désormais 54 départements a changé la donne et les destinations ?
Ça n'a pas changé vraiment les destinations qui étaient très demandées, c'est-à-dire que les destinations urbaines souffrent énormément parce que d'abord il n'y a pas de clientèle internationale, et puis c'est vrai que ce sont dans ces destinations qu'on a envie de sortir le soir. Mais c'est vrai que les destinations de grand air, quand on se retrouve dans une maison ensemble, entre amis ou en famille, on n'a pas nécessairement besoin de sortir après 21h, donc ça n'a pas forcément changé les destinations, non.
Merci beaucoup Timothée Deroux, président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Jean-Baptiste Djebbari, donc, qui disait à l'instant qu'on peut réserver ses billets de train pour Noël, mais qui a aussi annoncé dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos la mise en place de tests antigéniques dans les aéroports de Paris, Marseille et Nice dans les jours qui viennent. Des tests dont les résultats sont connus très rapidement, comme c'est le cas déjà à l'aéroport de Rome en Italie, Blandine Huguenet.
Dans l'aéroport de Fiumicino, à Rome, de grands panneaux indiquent le chemin à suivre à la sortie de l'avion, direction la zone de dépistage rapide du Covid. Des box qui sont installées là pour filtrer les voyageurs en provenance des zones rouges. C'est le cas de Anne qui a été testée négative dès son arrivée de Paris avec un test antigénique qu'elle a trouvé étonnamment efficace.
On nous enfile dans les narines un genre de long coton-tige et ils m'ont dit dans 15 minutes, vous aurez le résultat. C'était vrai et j'étais très surprise de l'organisation. J'avais hésité de le faire en France. Et en fait, je me dis, en voyant en Italie, c'est possible et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, efficace.
Et si le résultat est positif, un test PCR est fait ici dans la foulée, moins cher, rapide et aussi facile qu'un test de grossesse. Dès cet été, l'Italie n'a pas hésité à parier sur cette méthode de dépistage massif dans les aéroports. Et aujourd'hui, ces tests sont même généralisés dans les écoles et les laboratoires. Pour le gouvernement, peu importe s'ils sont un peu moins fiables que les PCR, les tests antigéniques restent le meilleur moyen de faire un tri des contaminations pour surveiller de près la circulation de plus en plus inquiétante du virus en Italie. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Circulation de plus en plus inquiétante du virus en Italie qui a conduit, je vous le disais il y a quelques minutes, à la mise en place d'un couvre-feu dès 18h désormais avec la fermeture des bars, des restaurants, des théâtres et des piscines et des salles de gym.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
C'est un procès qui risque bien de s'ouvrir en l'absence d'un des principaux accusés mardi à Bamako au Mali. Procès de la vague d'attentats qui avait touché le pays en 2015, causant notamment la mort d'un Français, Fabien Guillaumard. Car selon les informations d'Europe 1, l'un des terroristes, Chloé Triomphe, aurait été libéré au moment de la libération de la Française Sophie Petronin et de l'homme politique malien Soumaïla Cissé.
Fawaz Uldameida, Ibrahim X, de son nom de guerre, ferait effectivement partie des 200 djihadistes relâchés en toute discrétion et sous une fausse identité, selon nos informations. Et à quelques jours de l'ouverture du procès, la famille de la seule victime française, Fabien Guyomard, et la FENVAC qui l'accompagne, font face à un silence gêné des autorités sur les conditions de la tenue de ce procès, comme l'explique Sophia Seco, directrice générale de l'association.
Le silence est inquiétant. Si on a accepté de le libérer, on a envoyé à la population française, aux ressortissants français qui voyagent encore aujourd'hui en Afrique, le message que l'État français n'est pas en mesure de préserver leur droit à accéder à la manifestation de la vérité et à obtenir justice. Et ça, c'est particulièrement grave, sachant que c'est exceptionnel qu'on ait un auteur en face de nous. On l'a dans peu d'affaires de terrorisme.
À Paris, tout est pourtant prévu pour une retransmission des audiences pour la famille, sous réserve du feu vert malien. Mais aucune autorité ne veut s'avancer à confirmer l'absence du principal accusé. En France, une source diplomatique indique seulement que cette négociation a relevé de la seule responsabilité malienne.
Chloé Triomphe, du service police-justice d'Europe 1.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Le ton qui monte une nouvelle fois entre la France et la Turquie. Le président turc Erdogan qui conseille Emmanuel Macron hier de se faire soigner. L'Élysée qui rappelle l'ambassade de France. Et le ministre des Affaires étrangères qui ce matin accuse la Turquie d'attiser la haine. On en parle dans un instant.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Jean-Yves Le Drian qui dénonce l'attitude de la Turquie qui attise la haine. Réaction du ministre des Affaires étrangères ce matin. Alors que le ton monte une nouvelle fois entre Paris et Ankara après le dossier des tensions méditerranéennes avec la Grèce, la situation en Libye, les affrontements au Nagorno-Karabakh, c'est le discours sur le séparatisme qui ne passe pas pour le président turc, au point Jonas Abbas, Erdogan s'en prend directement à Emmanuel Macron et l'invite à se faire soigner.
Oui, Emmanuel Macron doit aller en hôpital psychiatrique, selon le président turc. Une escalade verbale en réaction au récent discours d'Emmanuel Macron, qui a dit notamment vouloir défendre les caricatures du prophète Mahomet. Pour Erdogan, ce n'est pas la liberté, comme le présente la France, mais de l'islamophobie.
Tout ce qu'on peut dire à un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale.
Des attaques très personnelles dans un contexte où Ankara ne supporte pas le projet de loi français sur les séparatismes qui prévoit un contrôle plus strict du financement des mosquées et l'interdiction de la formation d'imams à l'étranger. Une provocation selon Erdogan. Avant Jean-Yves Le Drian ce matin, l'Élysée avait déjà réagi en soulignant l'absence de message de condoléances du président turc après l'assassinat de Samuel Paty. Et conséquence concrète, la France a rappelé son ambassadeur à Ankara qui rentre aujourd'hui. Une décision extrêmement rare dans le monde diplomatique.
Johanna Chabas.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
L'actualité sportive et le 15 de France qui se rassure hier soir après 7 mois sans match. Victoire 38-21 au Stade de France face au Pays de Galles. Match amical. On peut même parler de domination des Bleus. Vous m'avez dit Axel May. Et surtout, c'est de bonne augure avant le prochain objectif samedi prochain, l'Irlande. Et pourquoi pas une victoire dans le tournoi Destination.
Oui, parce que les Bleus avaient besoin de se retrouver après cette longue, très longue période sans jouer. Et malgré une entame de match compliquée, hier soir, les hommes de Fabien Galthié ont répondu présent. 5 essais inscrits face à des Gallois qui ont plus souvent battu la France que le contraire ces dernières années. Alors, pas de quoi non plus s'enflammer. Il s'agissait, vous le disiez, d'un match amical. La rencontre qui va compter, ce sera le week-end prochain face à l'Irlande. Écoutez le troisième ligne, François Cross.
On va rester les pieds sur terre, on fait un joli match. Mais voilà, on a encore des lacunes, notamment sur l'entame. Mais c'est sûr qu'après le dernier match qu'on a joué, c'était en Écosse, une défaite là-bas. On avait besoin de renouer avec la victoire. C'était important voilà, pour l'état d'esprit du groupe de faire une belle prestation en vue du match la semaine prochaine face à l'Irlande.
Voilà, les Bleus ont donc une semaine pour préparer ce dernier match du tournoi Destination. Tournoi interrompu, faut-il le rappeler, en mars par le confinement. Et ils ne sont pas tout à fait à maître de leur destin. Cela dépendra aussi du match Italie-Angleterre du week-end prochain. Il leur faudra dans tous les cas gagner face aux Irlandais. La dernière fois que la France était en mesure de remporter un tournoi Destination, j'ose à peine vous le dire, cela fait 10 ans.
Eh bien, réponse la semaine prochaine. Merci Axel. Mais le football, 8e journée de Ligue 1, 2 résultats. Le PSG qui bat Dijon 4-0. Marseille qui bat Lorient 1-0. Programme aujourd'hui notamment Nice, Lille, Lyon, Monaco. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche. De la douceur, mais un ciel gris et de l'humidité, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, avec pour les maximales 14 annoncées à Angoulême cet après-midi, à Brest et Orléans. 15 degrés à Paris, à Lille et à Metz. 16 degrés à Vannes, à Brive-la-Gaillarde et à Aurillac. 18 à Strasbourg et Belfort. 19 à Clermont-Ferrand et Biarritz. Et 21 degrés à Toulon et Avignon. Du côté du ciel, de la façade atlantique aux Ardennes jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien et les pays de la Loire, votre journée se passe sous la pluie. Et si vous habitez sur le littoral, sous le vent, sensible à 50 km/h en rafale. De la Lorraine à Midi-Pyrénées, le ciel se couvre au fil des heures aussi. Les pluies arrivent ce soir. Le vent d'autan se renforce pour atteindre 80 km/h sur le sud du massif central. Le vent marin apporte de nombreux nuages bas aussi sur le Languedoc, qui vont gagner du terrain sur le Roussillon et la Provence. Et de l'Alsace aux Alpes jusqu'en Corse, la journée est plus agréable jusqu'à ce soir, moment où vous verrez vous aussi arriver les pluies.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, 45 000 nouveaux cas de coronavirus, un nouveau record en 24 heures, je vous le disais. La pression qui monte sur les hôpitaux, notamment en Île-de-France. Comment le système de santé peut-il arriver à faire face à cette nouvelle vague? Le couvre-feu suffit-il? Je pose la question dans un instant à Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Il est mon invité.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Un nouveau record enregistré donc hier avec 45 000 nouveaux cas en 24 heures de coronavirus à travers toute la France. La pression qui est de plus en plus forte sur les services de réanimation, notamment en région parisienne. Martin Hirsch, le patron de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, parle même d'une vague pire que la première. Bonjour Aurélien Rousseau.
Bonjour.
Directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. On va être très concret pour prendre la mesure de la puissance de cette deuxième vague. Déjà, ce nouveau record de contamination au niveau national hier, ça se traduit par quelle situation dans votre région en Île-de-France? Combien de nouveaux cas et quel pourcentage de lits occupés par des malades Covid en réanimation, puisque cet indicateur clé bouge chaque jour?
L'essentiel, c'est de voir qu'en fait, il y a une très forte accélération à la fois des contaminations. On a eu encore vendredi 8000 nouveaux cas en Île-de-France, mais aussi une accélération des entrées en réanimation. Pour vous donner un chiffre très simple, hein, on était en moyenne jusqu'à mercredi à 35 entrées par jour dans les réanimations d'Île-de-France. Jeudi, vendredi et samedi, on a eu près de 90 entrées. Et à l'heure où je vous parle, 67% de nos lits de réanimation sont occupés par des patients en Covid. Donc cette accélération, elle est très forte, elle est rapide. Il y a quelques établissements de la région dans les 48 dernières heures qui ont fait face à des arrivées soudaines avec des effets de vague. Je pense à Antony, à l'hôpital privé d'Antony, je pense à l'hôpital de Versailles où on suit ça tous les jours pour apporter et pour assurer la régulation entre les différents hôpitaux pour que les hôpitaux ne soient pas isolés pour faire face à cette arrivée massive de malades.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devant les députés hier, disait « quoi qu'on fasse, la situation va s'alourdir, tout simplement parce qu'il y a effectivement un effet retard. L'état des réanimations aujourd'hui, c'est le résultat des contaminations d'il y a 2 ou 3 semaines. C'est mécanique. Vous nous parlez d'accélération. Quand vous vous projetez dans une semaine, puisque vous avez des modèles qui vous le permettent, on aura atteint quel taux d'occupation? Les fameux 90%?
Oui, on devrait être autour de 90%. Et en effet, bon, il y a 2 semaines, je l'ai dit, parce que je pense que la transparence est un des acquis essentiels de cette crise. On a dit qu'on avait cette accélération des contaminations. Et on avait dit aussi que ce qui se passerait 15 jours après était écrit. Et en effet, c'est écrit. Donc maintenant, ce que nous scrutons avec beaucoup d'attention et un peu d'angoisse aussi, pour tout dire, c'est les résultats des contaminations qu'on verra mardi ou mercredi, qui devrait traduire l'impact du couvre-feu qui a été mis en place en Île-de-France il y a maintenant 8 jours.
Justement, Aurélien Rousseau, j'avais à ce même micro hier le professeur Salomon, président de la commission médicale de la PHB, qui me disait que déjà plusieurs indicateurs, comme les appels au SAMU, le nombre record de tests PCR, on l'a vu encore hier, qui sont en amont de l'hospitalisation, montraient que pour lui, le couvre-feu probablement ne suffisait pas. Pour vous, ce couvre-feu suffit ?
Moi, j'ai pris pour parti depuis le début de cette crise de me fier aux chiffres et à la fois d'essayer d'anticiper, mais sans tirer de plan sur la comète. Pardon pour l'expression un peu triviale. Je sais que lundi ou mardi, on verra s'il y a eu un impact. C'est vrai que la force de la dynamique épidémique est telle qu'on peut se dire est-ce que ça suffira ? Mais on aura des éléments lundi ou mardi et on sera en situation, et les autorités politiques seront en situation sur la base de ces données, de prendre les décisions. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est évidemment d'anticiper toutes les hypothèses, celle de la dégradation notamment, et c'est ce à quoi on travaille tous les jours, évidemment.
J'entends bien, Aurélien Rousseau, votre réserve qui est tout à fait effectivement légitime, hein, parce qu'effectivement, on l'a vu dans le journal, on parlait de ce couvre-feu avancé, notamment en Italie à 18h, donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer chez nous un couvre-feu plutôt aussi dès 7h, 19h.
Oui, le président de la République l'a indiqué très clairement lors d'une visite aux soignants de l'hôpital de Pontoise vendredi. Nous, le but est d'aller cibler les moments ou les lieux ou les types de rassemblements collectifs qui sont des facteurs de contamination. Donc il y a évidemment la question des horaires et il faut qu'on sache ce qui sera le plus efficace pour vraiment mettre un coup sur cette progression épidémique et un coup qui permette de revenir à des entrées en réanimation 15 jours plus tard qui soit soutenable pour le système de santé. Et le système de santé, il est à la fois plus près que en mars dernier, parce qu'il y a des éléments qu'on n'avait pas. On a des masques, on a des respirateurs, on a des médicaments, et il est sous une tension inouïe parce que les soignants, ils ont déjà vécu plusieurs mois de crise, et c'est notre responsabilité collective de les protéger d'un afflux massif qui serait insoutenable.
Et parce qu'Aurélien Rousseau, vous le dites vous-même, on manque de bras. Il y a toujours des postes vacants à la PHP, notamment. On recherche des infirmiers, des infirmières.
Oui, on recherche des infirmiers, des infirmières, quel nombre, d'ailleurs ? Tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, on avait au début de la crise en janvier dernier 1000 postes vacants. On n'en a plus, je mets des guillemets, que 500 parce qu'on est parvenu, la PHP est parvenue à recruter. Mais la tension est forte partout. Il y a aussi des gens qui sont fatigués. Il y a aussi des soignants qui sont malades. Donc, on est en permanence dans cette recherche et les établissements ont, si je puis dire, le feu vert complet pour que, à aucun moment, les questions financières ne soit un frein à la montée en puissance du système de santé.
L'autre problème, Aurélien Rousseau, c'est les transferts de malades qu'on avait vus au mois de mars. Là, ce ne sera pas possible. Toute la France est touchée. Ou il y en a déjà
Des transferts de malades, vous avez vu qu'il y a quelques jours, notamment, sont partis des malades d'Auvergne-Rhône-Alpes vers la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous partons du principe que notre système de santé francilien doit monter en puissance et pas intégrer a priori ces transferts de malades. En mars dernier, on les avait fait en dernier ressort, ces transferts. Mais je voudrais dire aussi que ça n'est pas qu'une question de l'hôpital. On l'a vu justement dans cette visite que le président a faite à Pontoise vendredi. Le travail avec les professionnels de la ville, avec les médecins de ville notamment, il est essentiel parce que si les médecins de ville arrivent à repérer plus vite, à faire mieux la différence entre le Covid et d'autres pathologies qui peuvent y ressembler, plus tôt on met en place des prises en charge spécifiques. De l'autre côté, si je puis dire, du côté aval, si on arrive à faire des protocoles de sortie d'hospitalisation avec un suivi à domicile, on parvient aussi à libérer un peu de pression sur les hôpitaux. C'est tout ça. Et ça, par exemple, on ne l'avait pas fait à cette ampleur-là en mars dernier. Donc, il y a aussi des éléments où on est mieux préparé, mais avec une tension qui est très préoccupante, qui est très, pour dire le mot, elle est angoissante. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut vraiment que tous on se dise, on n'attend pas juste de savoir si on va passer un couvre-feu élargi ou si on va passer un reconfinement. Il faut qu'on continue chacun de nous à penser au quotidien, à respecter les gestes, à limiter nos interactions sociales. C'est ça qui fera la différence.
Justement, Aurélien Rousseau, moi j'ai vu votre message, hein, déprogrammons nos interactions sociales plutôt que de déprogrammer des opérations dont ont besoin certains malades. Mais est-ce que vous comprenez le découragement de ceux qui portent le masque, qui appliquent les mesures barrières et à qui on est en train de parler effectivement d'un possible reconfinement, qui se disent tout ça pour ça? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, un dernier mot aujourd'hui?
Moi, j'ai envie de le dire qu'on est dans une course de fond. ça ne fait aucun doute, mais que cette course de fond, il faut continuer à la faire, parce que de toute façon, on a plusieurs mois devant nous à tenir. Évidemment que c'est quelque chose de lourd, quelquefois de décourageant, mais le plus décourageant, c'est si nous ne parvenions pas à faire face, à prendre en charge tous les patients qui en ont besoin. Et ça, effectivement, c'est une responsabilité qui repose à la fois sur les autorités publiques, mais aussi, en même temps, sur chacun de nous.
Merci beaucoup Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, d'avoir été avec nous. On a bien compris cette accélération et cette responsabilité à laquelle vous nous appelez tous. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Dans un instant, les carnets du monde avec François Claus aux commandes cette semaine et un témoignage exceptionnel sur la communauté ouïghour.